Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon et Émilie Avril sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Mon invité aujourd'hui, c'est Nadir Dandoun. Bonjour Nadir.
Bonjour Philippe, bonjour les auditeurs.
Alias Patrick Dandoun.
C'est vrai.
Vous auriez aimé vous appeler Patrick ?
Avec un peu de recul, non. Mais quand on est jeune, souvent, on est prêt à plein de choses.
Ouais. Ça vous arrive de mentir sur votre prénom ?
Plus du tout.
Plus du tout.
Je suis très fier de mon prénom. Mais quand on était gamin, quand on voulait pécho, donc choper pour ceux qui ne parlent pas le verlan.
C'est une émission grand public, hein, Nadir.
Voilà, alors quand tu étais un peu plus jeune, voilà. Quand tu voulais séduire la gente féminine, eh ben, on était prêt à tout.
Nos rêves de pauvres, votre livre, enfin un de vos livres, Nadir, est maintenant en poche chez Pocket. Ça fait quoi d'être en poche ?
Alors c'est super.
C'est la consécration finalement.
Alors c'est la consécration encore plus parce que il est chez Pocket, qui est pour moi quand même le poche de luxe. Le livre est super beau en plus. Ouais. Et ce que j'aime, le fait qu'il soit en poche maintenant, c'est qu'il est accessible au plus grand nombre. Et pour moi, un livre qui coûte 15€, c'est quand même balèze. Là, il coûte 6€. C'est vraiment super. Ça va être
et en plus, pour le plus grand nombre. Par rapport à la version qui n'était pas aux poches, il est enrichi.
Et en plus de ça, on a 80 pages de plus. On a 18 chroniques de plus. 18 textes de plus. Donc, c'est que du bonheur.
Bon, mais franchement, ça vous fait quoi de voir votre nom sur un livre de poche ? C'est-à-dire, quand vous aviez 15 ans, vous étiez à l'école, c'est un truc, quelque chose qu'on vous prédisait pas, Nadir.
C'est vrai qu'il y avait
une... Vous devriez le montrer à vos profs, tiens.
Alors, j'ai eu un malheureux incident avec une prof de français quand j'avais 13, 14 ans, 15 ans peut-être, je sais plus trop, qui m'avait dit que je savais pas écrire, que fallait pas écrire de cette manière, parce que... J'ai toujours écrit d'une manière peu académique. Je faisais des fautes de syntaxe et tout ça, mais j'ai toujours écrit avec mon oreille, en fait, et avec le rythme. Moi, quand il y a une phrase qui me plaît et qui sonne bien, voilà, je la mets. Même s'il y a une faute de syntaxe, si ça me plaît, je la mets. Et, donc, pour répondre à ta question, quand j'ai vu mon premier bouquin en 2005, à la FNAC, j'avais les larmes aux yeux, et pour un fils d'immigré algérien illettré, et analphabète, c'était comme une forme de vengeance. Mes parents savent pas lire et écrire, et en une génération, j'écris en plus dans la langue de leur ancien colon. Donc il y a beaucoup de symboles, mais 12-13 ans après, donc là c'est mon quatrième bouquin, j'arrive toujours pas à m'y faire, quoi. Et la FNAC en a fait son coup de cœur aussi, et quand j'ai vu la photo de mon père, parce que sur ce livre il y a la photo de mon papa, ça m'a fait bizarre, et de voir que mon père est mis en avant, est mis en valeur. Mmh. Ça, ouais, ça touche, mais je suis moins dans un sentiment de revanche maintenant, quoi. Je suis un peu plus apaisé, quand même.
Quand on est pauvre, Nadir, il paraît que c'est pour toute la vie, même quand on se met à gagner de l'argent. Vos parents, eux, se sont toujours vécus comme des personnes pauvres.
Ouais, c'est vrai que quand j'emmène ma mère manger au restaurant, par exemple, quand elle accepte,
ouais.
Déjà faut que je ruse.
Ouais.
Enfin, faut que déjà je lui fais croire qu'on va chez sa cousine, et après je me garde dans un parking et je lui dis j'ai réservé pour ce restaurant, on peut pas faire à marche arrière.
Ça vous le racontez.
Au moment de commander, ma mère va juste prendre un plat, elle va prendre de l'eau, mais de l'eau du robinet, comme on dit, voilà. Et donc, ouais, ils ont toujours vécu comme ça. Ils prennent pas le taxi, ils font toujours attention, ils mangent ce qui doit être mangé. Une fois, je l'avais emmené en...
Pas de gâchis, hein.
Pas de gâchis. Une fois, je l'avais emmené une semaine en Tunisie, là, dans un séjour tout compris. Alors là, c'était hallucinant. Elle fait son lit, c'était tout compris, donc elle pouvait manger ce qu'elle voulait. Elle prend une assiette. Et même, une fois, elle avait tapé un scandale sur la table d'en face, là, parce que quand c'est gratos, des fois, les mecs, enfin, pas quand c'est gratos, mais quand c'est tout compris, alors les mecs gâchent.
Les gens ont des comportements.
Elle déteste ça. Donc, elle a des comportements de pauvres. Ils ont des comportements de pauvres, et ça a déteint sur moi. Je prends jamais le taxi. Mais ça me dérange pas. Ouais, donc, et j'ai une conscience de pauvre. Dans le sens où moi, ça me dérange pas de prendre le métro, de prendre le bus, même si j'ai les moyens, j'ai les moyens de prendre le taxi si je veux le soir. Mais en même temps, c'est ça aussi qui me pousse à, continuer ce que je fais, à pas m'enflammer aussi. Hein, si, mes parents m'ont quand même appris à être, enfin, à être modeste, à être humble. Même si j'ai un corps de rêve et un physique de rêve, donc je reste quand même modeste.
C'est vrai, et c'est à tout à votre honneur, Nadir. Par culpabilité, écrivez-vous, j'ai toujours refusé de me faire plaisir, même quand j'en ai les moyens, je ressemble à mes parents, donc c'est quelque chose qu'ils vous ont transmis, même si quand même votre plus grande richesse, Nadir, c'est de pouvoir voyager à travers le monde. C'est votre luxe, vous, c'est voyager.
Oui, ouais, c'est ça. Quand j'ai de l'argent, je les mets dans les voyages. Et puis, donc voilà, pour les voyages, je pourrais dépenser... mon fric, voire prendre un crédit à la banque. Mais d'acheter une grande maison ou une grosse voiture à voilà, crédit. J'ai jamais été matérialiste. Mais aussi parce que je sais que j'ai commencé à voyager très tôt. Ça, je rends hommage aussi quand même à la mairie, à mon ancienne mairie communiste de l'île Saint-Denis, qui est maintenant, c'est parti en vrille. Mais nous, quand on était petits, on avait la chance, par exemple, d'aller deux fois en colline vacances. Et ma mère, qui pourtant ne sait pas lire et écrire, elle a très vite compris qu'il fallait qu'elle nous envoie en colonie. Donc, elle se saignait pour nous envoyer. À l'époque, avec le quotient familial, on payait très peu,
voilà,
parce qu'on était pauvres. Ouais. Et c'est ça qui m'a donné le goût du voyage. Quoi. J'allais dans les Alpes tous les ans. Quoi. J'allais en hiver dans les Alpes, en été dans les Alpes. Et si j'ai pu gravir après l'Everest, et si j'ai pu faire tout ce que j'ai fait, ça quand même part de là, quoi. Je suis pas plus costaud qu'un autre. Ça fait juste que j'ai grandi à une époque où c'était pas comme maintenant. Où être de gauche, ça voulait dire quelque chose. Où c'était le sport pour tous, c'était les vacances pour tous. Maintenant, si t'as pas de fric, tu peux te rentrer dans le
monde. Aujourd'hui, quand t'es pauvre,
Ah, quand t'es pauvre, c'est fini.
Voilà, c'est ça.
Quand t'es pauvre, t'as vraiment argent et... Et c'est pour ça que souvent, tu as des gens qui viennent nous raconter que la droite et la gauche, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Après, ça dépend de quelle gauche. C'est vrai que le Parti Socialiste, ces dernières années, ça, c'est plus la gauche.
Nadir Mandoun, en quoi l'histoire de vos parents est-elle universelle ?
Elle est universelle parce que avant d'être des anciens colonisés algériens, c'est d'abord... une femme et un homme qui se sont connus comme à l'époque, hein, mais qui ont fini par s'aimer, qui ont fait un bout de chemin ensemble, qui ont mis au môme 9 enfants, 9 Français. C'est la République qui aurait dû leur dire merci. Ils méritaient la Légion d'honneur, même si la Légion d'honneur ne les mérite pas. Et ils ont.
C'est une histoire, un couple de combien d'années, vos parents ?
Alors, 63, 64 ans, là, 64, 65 ans, et pour moi, après c'est pour moi, j'estime que quand t'as passé plus de 60 ans en France, t'es français, quoi. Donc il faut arrêter de nous péter les noix, et tu vois, quand tu payes tes impôts en France, quand tu fais tes courses en France, quand tu vis en France, quand tu participes à la vie de la cité en France, pour moi t'es français. C'est pour ça que c'est une histoire française. Et puis, ils ont mis au monde, il y a 4 génération, grâce à eux, de Français. Ma mère, elle a des arrière-petits-enfants. Donc, c'est une histoire française. C'est même une histoire ilo-dionysienne de l'île Saint-Denis. Donc, c'est une histoire clairement française. En tout cas, plus française que l'histoire des Sarkozy, pour ne citer qu'eux, par exemple.
Vous écrivez, Nadir, niveau de tendresse, nos parents sont des fantômes, aucun signe d'affection, pas de baiser, pas de caresse, pas de mots tendres, 4 bises au moment de partir en voyage, 4 au moment du retour, les sentiments sont protégés à triple tour, ils ne savent pas faire autrement. Est-ce que c'est quelque chose que ça aussi vous a été transmis, dans la façon que vous avez d'être affectueux ou pas ?
Alors, je peux être très affectueux avec une nana que j'ai rencontrée il y a 2 jours. Mais par contre, avec mes frères et sœurs, c'est vachement plus compliqué. En fait, plus... Je sais pas, c'est bizarre, mais plus t'es proche avec les gens, et plus... Ouais.
Donc, c'est la proximité qui fait proximité. Que c'est difficile.
Mais
de,
par
de...
contre, je vois comment mes sœurs, elles sont avec leurs enfants, c'est carrément l'inverse. Et même, y a une de mes nièces qui est venue vivre à la maison il y a quelques années de ça. Bon, maintenant, elle est grande. Et mon père, il a été hyper tendre en fait avec elle, comme si il
ça
se rattrapait,
une génération.
Comme si c'était une génération, et comme si ce qu'il n'avait pas osé faire avec ses propres enfants, donc il les a fait avec ses petits enfants. Mais encore une fois, on parlait d'histoire française. encore une fois, cette pudeur, c'est des trucs que tu retrouves aussi dans des vieilles familles françaises.
Hmm. À la campagne.
Campagne.
Chez les bourgeois, c'est, voilà. Aussi,
des bourgeois des fois.
L'éducation bourgeoise, voilà, très
aussi.
Bourgeoise, il y a une forme de distance, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas.
Non,
c'est qu'on ne se le montre pas.
On montre pas. Et c'est aussi pour. Et ce qui est dommage quand on parle de nous, entre guillemets, ou quand on parle des. Quand en fait on parle de mes parents, ben, on ne dit jamais assez voilà, que, tu vois, avant d'être des Algériens, ça reste. Voilà, c'est des trucs tout con, en vérité. Et c'est aussi, et en plus, je trouve que ces 10 dernières années, on est de plus en plus obsédé par la question identitaire. Et le film que j'ai fait sur ma maman, là, le documentaire.
On en parlera tout à l'heure.
Eh bien, ce que j'ai aimé, ma mère remet la question sociale au cœur du débat. Parce que.
La question de la pauvreté,
je disais,
justement.
Je suis plus proche d'un blanc prolo qui est né dans mon quartier. Que d'un fils d'ambassadeur du Maroc, ou le fils d'un général algérien, ou le fils d'un riche qatari, avec qui, enfin, moi, je sais, j'ai une conscience de classe. Voilà. Je suis plus proche avec les prolos qu'avec les bourgeois. Mmh. Et j'ai aucune honte à le dire. J'ai très peu de. Après, je peux rencontrer des bourgeois avec qui je vais m'entendre, mais de manière plus générale, je suis plus proche. Et donc, pour moi, la question raciale, on est vraiment tombé dans ce piège-là. Je ne sais pas si c'est le piège des bourgeois pour un peu...
Diviser peut-être.
Diviser les classes populaires en fait, entre eux, mais on s'est quand même laissé bien avoir. Moi, grâce à ma mère et même en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que j'étais un fils de prolo, quoi. J'étais un... Je suis un fils de pauvre. Donc, je n'ai peut-être pas les mêmes points de vue sur des trucs. Et j'en suis très, très fier. Sauf que personne n'est fier d'être un fils de pauvre en France. Ah, les gens veulent tous avoir du fric, ils veulent tous avoir réussir, quoi. Tu vois un peu. Et donc moi, j'ai pris ce pari-là.
C'est-à-dire que finalement, ses origines, vous les portez haut.
Oui. Mais si c'est pas nous, qui vont les porter? Je veux dire par là, c'est que quand t'allumes ta télé, qui parle des pauvres en France?
Non, c'est fini.
On n'en parle plus.
Non, c'est fini.
Et quand on en parle, c'est pour les caricaturer. C'est pour dire qu'ils sont obèses. Qui en fait ils ont des problèmes de fric. Voilà. Putain, alors qu'avant c'était pas comme ça. Moi, je sais pas, je me souviens moi des émissions de Michel Pollack, je crois que c'était Droit de réponse.
Droit de réponse. Hein,
ouais, Droit de réponse.
Oh, vous étiez petit, Nadia.
Ouais, mais je me souviens quand même un peu. Où tu vois, il y avait une vraie conscience de classe, quoi. Et être fils de prolo, ça voulait dire quelque chose. Et ben maintenant on est plus fils de prolo.
Et vous êtes là, Nadir Dandoun, pour parler de nos rêves de pauvres. Votre livre sort chez Pocket. Il y a votre papa toujours en couverture.
Il est sorti le 1er mars. Ouais.
Voilà, et on parlera de votre maman dans un instant.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon et Émilie Avril sur Beurre FM.
Le Book Club a lu pour vous Nos rêves de pauvres. C'est le livre de Nadir Dandoun qui sort aux éditions Pocket. Il y a votre papa en couverture. Vos parents, c'est l'histoire de votre vie, Nadir. Mais ça fait quand même un petit moment que je vous connais. Vous avez toujours parlé de vos parents. Toujours, toujours, toujours.
Eh bien, si ça fait longtemps qu'on se connaît, tu devrais me dire tu, Philippe.
Ouais, à la radio, c'est vrai. Mais c'est vrai que.
Parce que, en fait, il y a un truc. Bon, je vais pas vous raconter ma vie dans les détails, mais.
Si, c'est ça qui est intéressant.
Mais j'ai fait pas mal de bêtises. Et la seule personne qui m'a toujours soutenu bec et ongle, c'était ma mère. Et quand je lui ai demandé il y a pas longtemps pourquoi tu m'as toujours soutenu et tu m'as jamais enterré comme d'autres le faisaient, tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit parce que je savais que tu allais t'arranger parce que c'est moi qui t'ai fait, quoi, tu vois. Et ma mère, elle a toujours été là pour moi. Tu vois, ma mère, comment elle est? Elle est super cool. Elle a un discours universel. En fait,
ta mère, elle est moderne.
Ouais.
C'est ça qui est incroyable.
Voilà.
Elle est d'une incroyable modernité.
Exactement.
Avec ses traditions, son âge.
Alors,
mais elle a toujours été moderne.
Ce qui est très paradoxal, c'est que ma mère, elle est plus ouverte que beaucoup de trous de balles que je rencontre, quoi. Qui sont jeunes, qui ont 20 ans, qui n'ont rien vécu. Mais c'est aussi, tu vois, tu vas dans les pays d'Afrique, la parole des anciens, elle est mise en valeur. Quoi. Ici, en France...
C'est bibliothèque.
Ici, il est vieux, on n'en a rien à foutre. Quoi. Alors que ma mère, elle raconte des choses, des fois, elle est sage. Quoi. Elle est vachement plus sage que moi, en tout cas.
Alors, en plus donc de Nos rêves de pauvres, il y a un documentaire que tu consacres à ta mère, qui devient une héroïne de cinéma, dans un documentaire qui sort au cinéma, ça s'appelle Des figues en avril. Bravo pour le titre. Pour ceux qui nous écoutent, donc, dans deux jours, mardi, il y a une projection au Luxor. Alors, c'est pour ceux qui sont là en région parisienne. Je dis ça parce que le Luxor, c'est The Cinéma. Ouais. Déjà, c'est un cinéma qui est classé, qui est magnifique, art déco, il a été remis au goût.
Et on est trop fiers.
Tu vois, il y a le livre de poche et il y a le Luxor. Il y a le Balzac aussi qui existe, mais ça fait partie des cinémas qui sont classés. Donc ta maman va aller au cinéma. Ta mère, elle est timide. Comment est-ce que tu l'as convaincue finalement de se laisser filmer pour que les autres la voient?
Ben, je crois que je l'ai filmé à un bon moment où elle avait besoin de parler. Et puis, j'étais le seul avec elle dans la pièce. Hein. Je pense que s'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce, elle n'aurait peut-être pas accepté comme ça. Et tu vois, je te dis vraiment, ce film, il est né par hasard. Je vais prendre un café chez ma mère chaque matin, enfin, quand je suis sur Paris, bien sûr. Et donc, elle a vraiment.
C'est le rituel.
Vraiment, elle avait besoin de parler parce que il y a son mari qui a été placé dans une maison médicalisée puisque mon père est atteint de la maladie de l'Alzheimer. Et chez les Maghrébins, personne, mais ses parents,
voilà.
Dans une maison médicalisée. Enfin, mais là, on n'avait pas le choix.
Personne ne mettait.
Là sa chance parce que on est dans des réalités françaises. Enfin, tu vois, encore une fois, c'est une histoire française. Et tu vois, ma mère, elle a pas eu le choix, c'était elle ou lui. Elle était malade, elle l'a gardé 7 ans. À la fin, elle avait 7-8 de tension, quoi. Et tu vois, elle a même frôlé l'AVC, quoi. Tu vois, donc c'était hyper grave, donc il fallait absolument qu'elle le place. Et elle a commencé à me parler, à me raconter des choses. Et j'en ai parlé avec une amie qui monte des films et ça, et qui m'a dit, mais ça c'est une parole. Alors elle, c'était une Française dite de souche. Elle m'a dit, moi, c'est une parole que je connais pas. Elle m'a dit, on n'entend jamais les femmes de l'âge de ma mère parler, quoi. Ma mère, elle a 82 ans, illettrée. On a l'impression qu'elles n'existent pas. Alors pour moi, c'est l'armée de l'ombre. Souvent, c'est des femmes comme ma mère qui ont porté à bout de bras des familles entières. Et souvent, les films ou les livres même qui ont été faits sur l'immigration, qu'elle soit maghrébine, italienne ou ce que tu veux, c'est souvent porté par des hommes. Et c'est souvent des immigrations travailleuses.
On voit pas les femmes.
On voit pas les femmes. En plus de ça, on a l'impression qu'ils n'ont pas eu de vie. Tu vois, on a l'impression que les mecs qui venaient, les gens bossent et c'est fini. Alors que derrière tout ça, t'as des êtres humains quand même, t'as des sentiments, t'as des choses qui se sont passées. Et tu vois, donc, tu vois, ma mère, elle a commencé à rencontrer, et c'est ce que je te disais un peu plus tôt là, dans ton émission, c'est que ma mère, elle a un discours de classe. Elle sait pas lire et écrire, elle a un discours de classe, alors que t'as des péteux qui ont un discours de race. Elle arrive à placer la question sociale au cœur du débat. Parce que ma mère sait c'est quoi être pauvre. Parce que là, en fait, les gens, ils sont pas pauvres, en vrai. En vrai, les gens se lavent pète et tout ça. Donc, genre, on est pauvre, en fait, ils sont pas pauvres. Tu vois, ma mère, elle sait ce que c'est. Élever 9 enfants dans un quartier de Seine-Saint-Denis quand tu sais pas lire et écrire. Tu vois, ma mère, elle allait faire une heure de trajet pour aller chercher des trucs un peu moins chers, quoi. Tu vois, pour elle, 30 centimes, c'était 30 centimes. Et elle sait ce que c'est.
Et il fallait tenir les budgets et
bien sûr,
ça rentre dans le...
Il y a un moment dans le film, ma mère, je lui dis, on est des banlieusards. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, non, on est des paysans. Et elle me dit, on n'est pas des bourgeois, elle me dit. T'as vu? Elle sait ce que c'est, elle. Elle le sait. Les mômes, ils le savent plus. Mais c'est pas de leur faute aux mômes. C'est parce que nous, on n'a pas transmis ça. Les mecs, on leur a pas dit.
Aujourd'hui, on fait croire à des enfants que c'est normal d'avoir des iPhones qui coûtent un mois de salaire.
Exactement. Et tu vois, donc,
qui coûte un SMIC, hein.
Exactement. Mais c'est de notre responsabilité à nous. Et je pense qu'il y a les mômes qui sont à l'image de leurs parents aussi, quoi. C'est en fait pas que nous, c'est en fait aussi ce qu'on nous vend à la télé. On nous fait croire que pour être heureux, faut être pété de thunes, quoi. Tu vois, donc personne te dit. Ouais. Alors que moi, franchement, j'ai quand même fait plein de choses. Je vais pas jouer le modeste ici, mais la chose dont je suis le plus fier, c'est le film sur ma maman. Je savais pas que j'allais être aussi fier de lui rendre hommage de cette manière. On a fait une avant-première à Toulouse, là, chez nos amis du Taki collectif, là. Donc avec les frères Amokrane. On a fait une projection à Toulouse en octobre dernier, là, dans un chapiteau où il y avait que des gens des quartiers populaires. 300 personnes. Tu vois, ma mère, elle était là. Les gens, ils avaient les larmes aux yeux. Il y a des gens qui sont venus dire merci à ma mère, quoi. Et tu la réhabilites comme ça. Parce que ma mère, elle a jamais digéré l'exil et elle le digérera jamais. Avec ça, et tu vois, ma mère croit qu'elle est venue en France et tu vois, elle aurait peut-être pas dû venir. Elle sait pas si elle a réussi sa vie. Je lui dis, mais tu as réussi ta vie. Tu te rends compte? T'as mis au monde 9 Français, quoi.
Et élevé.
Et élevé, tu vois. Et elle s'est jamais plainte. Et donc, ce film aussi, c'était de lui dire, regarde comment t'es belle. Et je lui dis, il y a.
Mais qu'est-ce qu'elle dit?
Dans le film. Non,
qu'est-ce qu'elle dit?
Alors, quand tu lui dis ça. Alors, quand elle a vu le film pour la première fois, elle m'a dit, le film est bien, mais Nadir, quand même, et ça va te faire rire, elle m'a dit quand même, Nadir, t'aurais dû me le dire un peu avant parce que j'aurais pu laver la cuisine. En fait, ce qui l'a dérangé, c'est que sa cuisine, elle n'était pas rangée. Alors que dans le film, c'est pas un truc que tu vois.
J'adore.
Tu vois pas du tout. Et donc, elle m'a dit, ouais, et ça, et puis donc, elle aurait pu s'habiller et tout ça, quoi. Je lui dis, enfin, mieux, tu vois, elle aurait pu mettre une belle robe. Je lui dis, mais c'est pas grave. Je lui dis, ce que les gens, ils aiment dans ce film-là, c'est que t'es honnête et que t'es sincère et que tu parles avec
t'es vrai. Voilà. Et comment tu l'as dirigé, ta mère? Qu'est-ce que tu lui as donné comme indication?
Aucune indication. J'ai juste posé la caméra avec un pied.
Mais tu savais ce que tu voulais faire, alors?
Non. Moi, ce que je me suis dit, je me suis juste dit, voilà. Ma mère, comme plein de darons, hein, pas que ma mère. Et c'est pour ça que ce film va parler aux gens, parce que les mamans kabyles, même les mamans africaines, ou même des mamans des vieilles familles aussi françaises, elles ont une sagesse, elles ont une humilité, et ma mère, elle a du bagou, quoi. Tu vois, elle a le sens de la... elle aime bien vanner.
Elle est timide, elle aime bien vanner. Quand elle est lancée...
Elle est lancée. Ouais. Et je me suis dit, je vais la filmer. Moi, ce que je voulais, c'est que je voulais qu'elle me raconte sa vie, parce que sa vie, elle est passionnante. Ce qui a été drôle, c'est que quand on a commencé à, en fait, essayer de vendre, entre guillemets, le pitch était de leur dire, pendant une heure, tu vas entendre parler une vieille dame de 82 ans qui vit dans un appartement HLM, c'est un huis clos. Ça donne pas envie, hein. En plus, elle parle pas français. Alors, elle parle en kabyle. Alors, j'ai fait exprès de la faire parler en kabyle parce que ma mère parle français, mais c'était la faire pour qu'elle soit précise dans sa langue, puisque j'en ai un peu ras le bidule que on fasse parler les gens pas dans leur langue natale. Elle est hyper précise dans sa langue. Et donc, c'est vrai que ça donne pas envie. Alors que pendant une heure, tu t'emmerdes pas. Et moi, quand j'ai vu le résultat final, j'étais très fier. Ça fait 45 ans que je connais ma mère. Et ben, j'ai appris des choses sur elle. Et je pense que moi, c'est la plus belle expérience de ma vie.
Alors, le film sort le 4 avril. Je rappelle qu'effectivement, allez le voir au Luxor, parce que c'est quand même, il faut aller voir les films au cinéma. C'est quand même un documentaire qui sort au cinéma. Il y en a, mais pas énormément.
Et
il faut aller dans des salles qui sont, des salles magiques. On va écouter Slimane Azam, dans une chanson, qui parle à votre maman.
Ouais. Et qui parle à beaucoup, hein.
Qui s'appelle?
Amor.
Et alors pourquoi ça lui parle? On peut faire
ça lui parle pour deux raisons.
Ouais.
Ça lui parle parce que déjà ça parle de l'exil, ça parle d'un pays qu'on a dû quitter et en fait on sait à l'intérieur qu'on va pas pouvoir y retourner, et c'est aussi parce que Moh, c'est le diminutif de Mohand, qui est le prénom de son mari, qui est le prénom de mon père.
Le Book Club revient dans un instant. Beurre FM, midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon et Émilie Avril.
Nadir Dandoun est l'invité du Book Club aujourd'hui à l'occasion de la parution en livre de poche chez Pocket de Nos rêves de pauvres, chronique de vie intime et universelle, l'histoire d'une famille française, les Dandoun. Votre papa est en couverture du Pocket. Les Pocket, c'est la magie des couvertures, hein. Il faut dire que c'est vraiment, il y a toute une école. Et puis votre maman est maintenant l'héroïne d'un film que vous lui dédiez, qui s'appelle Des figues en avril. Le film est dans toutes les salles à partir du 4 avril, mais vous pourrez aller le voir au Luxor, donc mardi prochain. Nadir, vous parliez de l'exil tout à l'heure, et vous dites que finalement vos parents ont toujours été malheureux en France.
Bah oui.
Moi, ils ont toujours cru qu'ils allaient
y revenir.
Alors,
ils ont toujours été malheureux, ça donc, parce que tu vois, ma mère, elle préfère rester dans son village d'Iril l'Arlbra là, à 1000 mètres d'altitude, à côté de Béjaïa là, où elle allait chercher l'eau au puits, elle allait faire paître ses bêtes. Elle allait, elle marchait pieds nus dans, tu vois, dans la neige. Elle, en plus, elle vivait avec ses sœurs et sa mère. Il y a son père qui est mort quand, donc elle était jeune. Enfin, tu vois, là, en fait, elle avait une vie de paysanne, mais c'est en fait, voilà, ce qu'elle aimait. Après, avec le temps, elle s'est quand même habituée à vivre en France. En France, il y a ses enfants, il y a ses petits-enfants, donc il y a les gens qu'elle aime aussi.
Et elle est attachée à sa cité Maurice Thorez.
Et l'autre question, oui, alors, c'est ce que tu me disais. Tu me dis, ah oui, alors, par rapport à la cité Maurice Thorez, à Lissani, oui, elle ne la quittera jamais, là, ça.
Ouais.
Elle adore. En fait, c'est devenu son village, tout ça. Souvent, ceux qui habitent pas dans les quartiers populaires voient ça comme une zone de non-droit. Alors que ma mère, elle, pour elle, quand elle rentre avec ses courses, t'as toujours un jeune qui l'aide. Quand elle a besoin de sucre, elle va frapper dans la porte de son voisin. Quand il y a quelqu'un qui meurt, t'as une quête qui est faite, organisée. On fait même un petit hommage
dans la salle. La solidarité aujourd'hui,
ça existe un peu.
Ouais.
Ça, pour être honnête, ça existe moins, mais ça existe toujours quand même. Donc ça, c'est pas mal. Donc tout le monde sait qui elle est. Elle vit à la cité Maurice Thorez depuis 1968, je crois. Donc ça fait quand même plutôt pas mal. Ça fait 50 ans.
Ça fait presque 50 ans. 50 ans cette année.
Ça fait 50 ans. Et l'autre truc que je voulais dire, mais j'ai complètement zappé, je sais plus, c'était par rapport à l'exil, je sais plus ce que tu me disais.
Tes parents, ouais.
Ouais, mes parents.
Qui dit qu'ils avaient toujours été malheureux, toujours malheureux ici.
Mais après, il y avait mon père qui rentrait tous les ans en Algérie. Et oui, on avait failli rentrer en Algérie en 1988, parce que mon père il a été à la retraite en 1988, c'est ça. Et il s'est dit qu'il allait rentrer. Et normalement, je devais rentrer aussi avec mes sœurs, sauf que j'avais 15 ans à l'époque. Et je me rappelle que ma mère, elle a dit « C'est trop tard, ils sont français ».
Nadia Dandoun, vous dites « J'ai eu la chance d'avoir vécu dans une cité, la chance d'être un banlieusard ». Vous dites que vous devez tout à cette cité Maurice Thorez, elle vous a façonné. Qu'est-ce que vous lui devez exactement? Qu'est-ce qui fait de vous un gars de la cité Maurice Thorez?
Alors, un warrior quand même. Je pense que si j'étais né dans un immeuble huppé de Neuilly-sur-Seine ou dans le 16e, parce que c'est bien de les caricaturer un peu, parce que comme eux, ils passent leur temps à nous caricaturer, et un partout. Et puis ça m'a donné une force aussi, quoi. Je le voyais quand je travaillais en tant que journaliste pour les grands médias. Tous mes collègues, ils flippaient dès qu'il fallait franchir le périph. Moi, non. Moi, je suis à l'aise dans tous les milieux. Je suis un caméléon. Je suis à l'aise avec les bourgeois, donc parce que déjà je dis, parce que déjà je maîtrise la langue, donc déjà je dis, et puis je dis ce que je pense, et puis je suis à l'aise dans les quartiers populaires. Donc c'est aussi ce que je te disais tout à l'heure. Je me définis, moi, quand on me demande qui moi je suis, et ben moi je dis que je suis un banlieusard et fier de l'être. Parce que quand t'as grandi dans un quartier, il y a des choses qu'on sait, on a le sens de la vanne, on aime bien se foutre un peu de la gueule des gens, et puis quand on est méchant, on est très méchant, et puis quand on est sympa, on peut être très sympa. Et moi, ce qui m'a sauvé un peu, ce qui a fait que je peux être un être sensible, c'est le fait d'avoir eu 7 sœurs, 7 frangines. Donc j'ai eu les deux. Je suis né dans un quartier, donc j'ai aussi grandi dans la rue, j'ai grandi dans un hall, j'ai aussi fait quelques bêtises, donc s'il faut se battre, je peux me battre aussi, même s'il arrive à un âge où... Mais bon, j'ai ça aussi. Et puis avec mes sœurs à la maison, où il y avait un peu plus de tendresse. Et donc j'ai un peu ce mélange des deux. Et parfois, c'est pas simple, parce que ça peut donner un mi-ange, mi-démon, quoi.
Mmh. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne l'envie de sortir de chez vous? Finalement, qu'est-ce qui va vous donner envie de vous dépasser?
Toujours. Même si tout à l'heure je t'ai dit que j'étais pas dans la revanche, revanche.
T'es pas dans la revanche, Nadia.
Mais
regarde,
encore.
Aujourd'hui, on est à l'heure du développement personnel. Tu sais, c'est transformer le pépin en pépite.
Ouais,
donc,
ouais.
Tu sais très bien que le développement personnel, ça s'appuie sur le fait qu'il faut dépasser ses handicaps pour en faire des forces. Toi, tu devrais être le coach numéro un en France. Parce que tu as vraiment transformé le pépin en pépite.
Et
tu vois, aujourd'hui, tu devrais être même la tête de file de tous les coachs en développement personnel.
Alors, on me propose parfois de venir parler, tu vois, dans des bonnes entreprises, mais je suis pas de droite, quoi. Je sais pas, j'arrive pas. Et puis, pour être honnête, je suis aussi un peu. Enfin, je pense que les gens ont peur un peu de moi, c'est parce qu'ils savent que.
Je peux être un gérable,
mais ça en fait j'en suis conscient. Mais en même temps, c'est ça qui me permet aussi de dire toujours ce que je pense. Et puis, on met jamais en avant ceux qui disent ce qu'ils pensent. Quoi. Tous les gens qui reçoivent quand même Légion d'honneur, je veux dire 90% des gens qui ont eu la Légion d'honneur. C'est des lèche-cul, faut être honnête. Enfin, tu vois, franchement, regarde bien à qui.
Ils ont rendu des services, tu vois.
Non, mais regarde bien qui la donne. Ça serait si c'était au mérite, hein. Sauf que j'ai pas besoin d'eux. Je mène ma barque tout seul parce que pour moi, le talent, c'est toujours à la mode. Ça marche maintenant. Ouais. Si ça marche maintenant, ça marchera pas. Et puis, comme en fait, je te dis, je n'attends rien. Tu vois, enfin, moi, j'en ai rien à foutre. Là, en fait, ce qui m'arrive, en fait, aujourd'hui, je te l'ai dit tout à l'heure, d'avoir pu faire un film sur ma maman, c'est exceptionnel. Jamais j'aurais pensé, il y a 10 ans, je t'ai rencontré en 2002 lors de mon retour du Tour du Monde à vélo. Et tu vois, j'étais revenu à l'époque, tu vois, je savais pas trop ce que j'allais faire, quoi. J'ai écrit quelques bouquins, j'ai fait des trucs, quoi. Tu vois, et ce qui est bien, c'est que je continue à m'éclater, quoi. Et je sais pas ce que je vais faire demain.
Tu continues à avancer.
Voilà.
Bon, ta mère, elle aurait voulu tourner avec Victor Newman, mais bon.
Ah ouais. Elle kiffe Victor. Non, elle le kiffe moins maintenant.
Elle le kiffe moins.
Ouais, parce qu'elle aime pas. Enfin, moi, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, elle aime pas les bourgeois, même. Non, c'est vrai qu'elle veut pas les saquer. Parce qu'elle trouve qu'ils friment.
Ce que j'aime chez ta mère, c'est que finalement, elle continue de vivre à son rythme et que personne ne lui impose un rythme. C'est son rythme. C'est-à-dire que finalement, elle est, voilà, tu vas chez elle, tu vis à son rythme.
Ah, c'est ça.
Même,
ah oui.
Même toi.
C'est la patronne. Ah, c'est la patronne. Mais c'est dû au fait qu'elle a vachement vécu. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle a plein de choses à nous apprendre à nous, mais comme toutes les mamans, elles ont plein de choses à apprendre. Ce qui serait bien, c'est que dans les collèges et lycées, au lieu qu'on invite des mecs de la Starac, tu vois, les mecs de la Starac ou les mecs qui font de la télé-réalité, c'est nos anciens qu'on devrait inviter. Qui on met en avant ici dans notre pays? Enfin, on met en avant des mecs. Des mecs qui gagnent un télécrochet, quoi. Ça fait pas la honte. Tu sais que dans le collège où je suis allé gamin, ils ont invité une nana d'un télécrochet. Tu te rends compte? Les mecs donnent ça en exemple aux gamins.
De réussite.
La télé-réalité. Qui est pour moi de la grosse daube, quoi. Faut être honnête. Et tu te rends compte? Et tu vois, c'est ça le déliquement de notre, C'est ça, c'est qu'on tire vers le bas. Et ça, ils ne l'auraient jamais fait dans un collège de Neuilly-sur-Seine, ils ne l'auraient jamais fait. Ils ont un mépris pour les pauvres, mais c'est vraiment un truc de mal. Parce que, en fait, ce qu'ils pensent, ils pensent que les pauvres, ça va leur plaire, ça. Alors que moi, pour moi, il faut de l'excellence partout. Il faut de l'excellence partout. Des fois, tu as des collèges et des lycées de Seine-Saint-Denis qui invitent des brels. Et ils les invitent parce qu'ils sont connus. C'est tout que pour ça. Alors que dans les lycées UP, normalement, il faudrait l'égalité pour tous. Et il y a aussi, pour moi, il y a un truc qui me scandalise en France, c'est que les écoles privées, elles sont en partie financées par l'État. Tu te rends compte? Les écoles privées, c'est normal qu'il n'y a pas de thunes pour les écoles publiques après. Voilà.
Donc, celles qui sont sous contrat, comme on...
Ouais. Donc, sauf que c'est une grosse arnaque. Et ça, t'as vu, personne ne dit rien du tout. Donc ça veut dire, si t'as du pognon, tu peux mettre tes mômes dans des bonnes écoles. Et donc les mecs, ils osent te dire, liberté, égalité. Et tu sais que les populations les plus précaires, dans les villes en tout cas, ont en fait, c'est qui c'est. Et c'est le même tarot dans les villages et dans les trucs. Ouais. Donc c'est une question de classe, toujours, encore.
Il y a ceux qui rêvent leur vie, et ceux qui ont une vie de rêve, Nadir, ouais. Mais toi, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu as tous tes rêves, tu les assouvis?
Non.
Non.
Non, non, faut pas. Attends, moi aussi, je fais. Il y a des moments où, pareil, je suis pas bien, quoi.
C'est quoi la différence entre des rêves de pauvres et des rêves de riches?
Voilà.
D'après toi?
Ben alors, ça, c'est vrai. Très vite, j'ai compris que j'allais décoloniser mon esprit, que j'allais sortir de ce truc. C'est pas parce que tu viens d'un quartier populaire que tu dois faire du foot et de la boxe. Moi, bon, même si je fais de la boxe, hein. Mais que tu as aussi le droit de faire de la montagne. Il y a 40 ans, les femmes, elles avaient pas le droit de courir le marathon, par exemple. Parce que c'était un sport de mecs. En 1973, je crois, il y a eu un marathon qui a été couru à Berlin, je crois, ou en Allemagne, je sais plus où. Et t'as des femmes qui ont commencé à courir ce marathon. Ben, tu vois, les mecs, ils étaient contre. Et ben, c'est ça. Moi, ce que moi j'aime bien, c'est aussi aller là où les gens ne t'attendent pas. Voilà. La montagne, au début, j'en ai fait parce que ça me faisait marrer. Et puis, c'était un joli pied de nez à cette élite qui nous méprise, parce que faut voir l'élite de la montagne, parfois. Ben c'est comme dans les grandes boîtes des entreprises, quoi. Et tu vois, t'as très peu de jeunes des quartiers populaires qui font de la musique classique, qui font de la danse classique et tout ça, quoi. On se cantonne, un, parce que c'est cher aussi, faut être honnête, mais c'est aussi parce que on se met des barrières sociales et on pense que c'est pas pour nous. Mais ça, c'est aussi ce qu'on nous dit quand on est gamin, et puis ce qu'on mate à la télé. À la télé, quand tu vois un noir et un arabe à la télé, c'est soit c'est un footballeur, soit c'est un rappeur, quoi. Donc t'as du mal à croire que toi aussi tu peux le faire.
Nadir Nandoun, Nicolas Hulot est ministre. Est-ce que tu lui as dit que c'est lui qui t'avait donné un jour envie de voyager?
Nicolas Hulot, ah ouais. Oui, c'est vrai. Mon premier voyage en Australie, enfin mon premier gros voyage à vélo en Australie, c'était en 1993. Hein. Ça fait 25 piges. Hein.
T'imagines?
Et on avait eu avec mon pote Yannick, qui maintenant habite à Toulouse, et qui était lui un fils de prolo aussi. Et on avait regardé l'émission Ushuaïa à l'époque, et il faisait un spécial Australie. Mmh. Tout a commencé là, quoi. On est descendu dans l'eau.
Maintenant, il est ministre. Peut-être qu'il te donnera moins envie de faire des choses, mais...
Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'on est descendu dans l'eau, et il y a mon pote Yannick qui me dit, viens, on se barre en Australie. Et là, on a mis un an à monter ce projet, et à partir de là, tout a été ensuite vide voyage et tout ça. Donc tu vois, ça prouve que ça tient à rien du tout. Si on n'était pas parti en Australie, peut-être que je serais pas devant toi aussi. Quoi. Donc avec les si, mais c'est vrai que tu te rends compte que parfois... Et puis ma vie, surtout pour moi, c'est une réussite entre guillemets collective. Même si c'est
dans
moi qui...
Ben,
même si c'est moi qui est devant toi, ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est des trucs que je dois... Salah, à Pascal, à Alain. À
Salah, qui est le premier qui croit en
moi. À ma mère, à mon père.
Salah, c'est
tout
le,
ça.
Le premier
ouais,
qui va croire
en toi.
Qui
croit en moi.
Ouais. Tu lui rends hommage, de toute façon.
En plus. Mais si eux sont pas là, moi je suis un. Et on te fait croire que tu réussis seul alors que c'est faux. Moi j'ai eu besoin des
c'est bien,
autres. Hein,
ouais. C'est bien de les remercier parce que souvent quand tu es en haut du.
Oui, mais parce que c'est des branleurs, les mecs, c'est pour ça.
Tu
non,
sais,
non.
T'oublies d'où tu viens.
Il y en a. Moi je sais. Et c'est encore des gens qui m'aident. Sur le film sur ma mère, si je rencontre pas une monteuse, Stéphanie Mollez s'appelle, si elle est pas là, le film il sort pas. Donc t'as toujours besoin des autres, en vrai. Voilà. Enfin moi c'est ce que je pense en tout cas. Après t'en as qui disent que c'est pas vrai, mais donc, je pense que c'est des menteurs.
Nadir Nandoun est chez Pocket. Nos rêves de pauvres viennent de sortir dans la prestigieuse collection. Et puis, à noter que ta mère, donc, est dans les salles à partir du 4 avril. Elle y sera un petit peu avant. Le film s'appelle Des figues en avril. Et on pourra.
Il y a la page Facebook du film qui s'appelle Des figues en avril, si vous voulez avoir
toutes les projections.
Infos, parce que le film, comme c'est quand même un tout petit film, il ne sera pas dans 50 000 salles non plus, mais je pense qu'il sera dans quelques salles quand même. Voilà.
Bien.
Merci Philippe.
Merci ma poule.
Des bisous à tous.
Des bisous. À bientôt et bon dimanche.
Merci.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.